Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur l'évangile de dimanche prochain, le cinquième dimanche du temps du carême. Nous entendrons un épisode au chapitre 12 de l'évangile selon saint Jean, les versets 20 à 33, qui suivent immédiatement l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce moment où les gens ont acclamé Jésus avec des rameaux en chantant « Hosanna au fils de David ». Je vous lis le texte. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Observons la récurrence du verbe glorifier. Nous l'avons au verset 23. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et nous le retrouvons au verset 28. Père, glorifie ton nom, dit Jésus. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Remarquons l'équivalence entre la glorification du Fils de l'homme, cela désigne Jésus, et la glorification du nom du Père. Père, glorifie ton nom, et cela se produit quand le Fils de l'homme est glorifié. Cela vient du fait, comme nous le disons dans le « Je crois en un seul Dieu », que le Père, le Fils et l'Esprit Saint reçoivent même adoration et même gloire. On dit dans le Credo, l'Esprit Saint qu'il reçoit avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Mais c'est aussi parce que, comme le dit l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 15, Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Verbe fait chair est l'image du Dieu invisible. Dieu qui se laisse voir, c'est le Christ. Qui m'a vu, a vu le Père, nous dit Jésus. La gloire dont va être glorifié le Fils de l'homme est donc une gloire divine. C'est une chose importante parce que le terme de gloire, dans le langage humain, ça désigne plutôt la gloriole, les acclamations des gens, les regards admiratifs, les confettis qui tombent. Or, la gloire de Dieu, c'est une chose différente. La gloire de Dieu, en fait, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Gloire de Dieu, c'est quelque chose de quasiment technique qui désigne la manifestation de la présence de Dieu, qui permet de voir la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le moyen par lequel nous savons que le Dieu invisible est présent. Ainsi, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'était souvent la nuée qui manifestait que le Dieu invisible était là. Quand le Dieu se rendait présent dans la tente du rendez-vous, la nuée remplissait la tente et l'on savait que le Seigneur était là. La chose surprenante, c'est que la glorification de Jésus correspond à sa mise en croix, correspond à sa mort sur la croix. L'évangéliste, en effet, interprète la parole de Jésus « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », en précisant, il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Mais comment est-ce que la mort de Jésus sur la croix peut être sa glorification? Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt sa résurrection, voire encore plus son ascension à la droite du Père? Or, en saint Jean, il y a cette volonté manifeste d'affirmer que la glorification du Christ a lieu lorsqu'il est élevé sur la croix, lorsqu'il meurt sur la croix. La clé nous est donnée par la première lettre de saint Jean au chapitre 4, les versets 8 à 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Dieu est amour. Donc la gloire de Dieu est ce qui manifeste Dieu, puisque Dieu est amour. La gloire de Dieu, c'est ce qui rend manifeste son amour. Or, comment est-ce que son amour s'est exprimé de la façon la plus éminente? Par la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus sur la croix est donc bien gloire de Dieu, puisqu'elle est la manifestation de la plénitude de son amour pour nous. Mais en quoi est-ce que la mort de Jésus sur la croix est la manifestation de la plénitude de son amour pour nous? Pourquoi est-ce que là plus qu'ailleurs? Eh bien parce que lorsque Jésus meurt sur la croix, il est dépouillé de tout intérêt personnel qu'on aurait pu soupçonner qu'il avait caché. La mort de Jésus sur la croix manifeste la pleine gratuité, l'entière gratuité de son amour pour nous. C'est bien pour nous et pour notre salut qu'il s'est fait chair, c'est pour nous et pour notre salut qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il n'avait pas d'intérêt personnel qu'il poursuivait à travers ce chemin et qui aurait pu justifier qu'il se sacrifiât. La mort de Jésus sur la croix, c'est la révélation, la proclamation de cet amour de Dieu pour nous, vraiment gratuit et vraiment entier. Il ne nous a rien refusé, il s'est donné entièrement pour que nous recevions de lui la vie. L'hérésie arienne du IIIe siècle, qui imaginait le Verbe fait chair comme une super créature, très proche de Dieu, mais une créature qui n'était pas à l'égal du Père, imaginait justement que par sa mort sur la croix, eh bien, cette super créature allait être exaltée et recevoir une condition supérieure à celle qu'elle avait au départ. L'hérésie arienne de Arius a été repoussée par l'Église pour dire que c'est bien le Fils, celui qui était l'égal du Père, qui était Dieu de toute éternité, qui s'est fait chair, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Et donc, étant Dieu dès l'origine, il ne gagne rien, sa nature ne reçoit rien en prime par la manifestation de l'amour qu'il a vécu. Cela étant dit, le commentaire de Jésus sur la mort qu'il va traverser va ouvrir une nouvelle perspective. En effet, il introduit cette comparaison. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà une chose encore étonnante. Jésus est en train de dire que la mort va porter un fruit. Et pas seulement un fruit, mais beaucoup de fruits, un fruit abondant. En fait, il ne s'agit pas de la mort conséquence du péché, mais il s'agit de la fécondité de la mort devenue offrande d'amour. Lorsque la mort devient une offrande d'amour, elle reçoit la capacité de porter beaucoup de fruits. Voilà que la mort, qui n'était que le fruit du péché et qui devait donc mener normalement à une impasse, à une stérilité, peut devenir une chose sacrée, une chose qui est digne de Dieu, une chose même qui mène à la vie, dans la mesure où elle devient une offrande d'amour. Cette remarque est appelé à transformer la façon dont nous concevons et dont nous nous préparons à notre propre mort. Notre propre mort n'apparaît plus alors simplement comme le terme de notre vie terrestre, mais comme l'occasion de l'offrande suprême, d'une offrande suprême par amour, d'une offrande suprême d'amour pour Dieu et pour nos proches, pour notre prochain. Seigneur, mon bien-aimé, au terme de ma vie sur terre, je m'abandonne à toi, je me livre à toi. Seigneur, mon bien-aimé, j'ai reconnu ton amour pour nous sur cette terre, et maintenant, à l'heure ultime, je me donne à toi. Reçois tout ce que je possède, tout ce que je suis. Que l'offrande de ma vie entre tes mains puisse aussi porter un fruit de vie et d'espérance pour mes frères que je laisse sur cette terre. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être deux choses en particulier. Premièrement, glorifier Dieu, c'est rendre manifeste son amour. Deuxièmement, il nous est possible, à la suite du Christ, d'engager notre liberté pour faire de notre propre mort une offrande d'amour qui, ainsi, dans ses mains, pourra porter beaucoup de fruits. Je vous souhaite de bons échanges.